aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les patients et les médecins en sont convaincus et les études cliniques le prouvent. La bienveillance fait partie intégrante du soin, de la thérapeutique. L'écoute, l'attitude du médecin, la clarté du propos, cette consultation, cette relation bienveillante a un impact quantifiable sur la santé, comme vient encore de le démontrer une étude menée par le département de psychologie de l'université américaine de Stanford. Écoute, bienveillance. Mais comment offrir compétences et disponibilité lorsque la durée moyenne d'une consultation en France se limite à 16 minutes? Comment expliquer, sans faire d'impasse, lorsque les techniques médicales sont toujours plus techniques, plus complexes? Il faut aussi pointer les conditions de travail dans les structures de soins, certains hôpitaux, des services d'urgence, les établissements qui prennent en charge les personnes âgées, sous-effectifs, tâches chronométrées abîment les vocations les plus nobles et créent des souffrances physiques et mentales. Ce sont donc de multiples contraintes qui se télescopent. Simultanément à l'essor d'une médecine de pointe, les patients ont pris davantage de place dans le paysage du soin et font entendre leur voix. Alors, la bienveillance, une véritable compétence clinique, une qualité essentielle qui permet de bâtir la confiance et le jour venu, aux patients, de remercier ceux qui les soignent pour leur efficacité, mais aussi pour leur humanité. La médecine bienveillante, on en parle avec nos invités en studio. Avec nous, professeur Jean-Noël Fabiani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, professeur à l'université Paris-Descartes. Avec nous également Aurélie Locher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière en consultation gynécologique et c'est un hasard également à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Les médecins de demain, Franck Roland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes interne en médecine générale à Paris. Franck Roland, chargé de mission éthique et santé mentale au sein du syndicat représentatif parisien des internes de médecine générale, patients, soignants aussi avec nous en studio. Laurent Thuil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes manager commercial atteint de la maladie Parkinson et à ce titre travailleur handicapé. Et puis tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Burkina Faso le professeur Roger Sombier, gastro-entérologue et pathologue à l'hôpital Yelgado Ouédraogo d'Ouagadougou, donc au Burkina.
Priorité santé sur RFI.
Il y a donc ausculter, diagnostiquer, prescrire et puis écouter, expliquer, accompagner et les deux ne sont pas forcément séparés. On a donc choisi aujourd'hui dans Priorité Santé de parler de la bienveillance, relation médecin-patient en nous appuyant sur cette étude américaine menée par le département de psychologie de l'université de Stanford qui fait le point sur l'impact de certaines attitudes, des mots rassurants qui accompagnent les actes, ces encouragements qui soulagent, ces attentions qui tranquillise. Professeur Jean-Noël Fabiani, justement, quel est votre sentiment sur ce type d'étude? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'interroger, de quantifier, d'analyser pour savoir que la bienveillance en santé, ça fait du bien?
Alors, ça peut sembler une évidence qu'un médecin doit être bienveillant avec son patient. On ne voit pas d'ailleurs comment il pourrait en être autrement. Et pourtant, il faut bien se rendre compte que la rapidité des choses, la technique, font que parfois le praticien est lui-même pris dans un tourbillon qui font qu'il n'a pas le temps, matériel pour avoir toute cette attention. Et il y a une fuite en avant de beaucoup de praticiens. Et il faut bien dire aussi autre chose, c'est que la médecine est avant tout un acte intellectuel qui, normalement, s'exprime par la consultation. Or, depuis un certain nombre d'années...
On la ramène aux scientifiques.
On la ramène à la technique. Mm-hmm. Le médecin n'est plus un intellectuel, devient un technicien, parce qu'il a une sonde en main, parce qu'il a un cathéter en main, il devient un technicien.
Voire même un ordinateur devant lequel il est rivé pendant la consultation.
C'est vrai. Et bien entendu, ce caractère technicien, fait que... Alors, qui est très bien rémunéré, il faut bien le reconnaître en médecine. Plus on est technicien, plus on est bien rémunéré. Alors que le côté intellectuel est peu ou pas rémunéré. Et c'est bien un des problèmes, parce que ces questions d'argent sont aussi une question de la façon dont on considère notre médecine dans une société.
Et aussi pourquoi, parfois, pour certains, on espère le plus petit nombre possible, on choisit ce métier. Justement, côté définition, bienveillance en médecine, c'est quoi exactement, professeur Fabiani? Bienveillance.
Je pense qu'on appelle bienveillance tout simplement une attitude compassionnelle et empathique. On peut demander, et c'est une évidence, à ce que le médecin soit empathique vis-à-vis des souffrances de son malade et vis-à-vis des nouvelles qu'il a parfois très, très mauvaises à lui annoncer. Et ça fait partie totalement de son métier.
Laurent Thuil, vous êtes atteint de la maladie de Parkinson, vous êtes patient, maladie chronique, quand on a ce type de maladie, un long parcours de soins, beaucoup d'examens, beaucoup de consultations. Alors, c'est quoi les mots que vous utilisez aujourd'hui pour décrire votre relation justement avec ceux, avec celles qui vous soignent? Parce que jusqu'à présent, on a parlé des médecins, mais il y a tout le personnel soignant qui ne se limite pas, loin de là, aux médecins, surtout quand on est en maladie chronique, hein, on a... aussi souvent, très souvent, voire plus souvent affaire aux infirmières ou aux aides-soignantes. Donc, comment vous décrivez ce lien?
Je vais peut-être vous surprendre, mais ça commence par le sourire. Quand vous êtes accueilli, la première chose, c'est le sourire. L'être humain parle avec le sourire. Et la bienveillance, pour moi, commence par là. Puis après, ça passe par l'écoute. Il vous écoute une minute trente. Et on se sent bien. Je me suis senti avec des protecteurs. Je me suis senti pris en main, écouté. Et dans un environnement qui allait m'accompagner pour l'avenir. Et ça m'a semblé essentiel. Et ça m'a donné du moral pour avoir une nouvelle vie, en fait.
Et aussi pour décrire ce que l'on ressent, plus facile d'expliquer que les mots sortent quand on sent que derrière on est vraiment écouté, et même quand on a justement ce regard, ce sourire, cette gentillesse sur le visage.
Tout à fait. Puis s'instaure un échange avec aussi bien le corps médical qu'avec votre neurologue, puisque dans mon cas j'ai eu deux neurologues extraordinaires, puisqu'ils ont été dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'accompagnement. Et puis en plus, dans le cadre de la maladie de Parkinson, on parle de cerveau. Et donc, vous avez en plus après des idées, vous avez des sortes de défis, vous découvrez. Je me suis découvert, j'ai appris à me connaître, j'ai écouté mon corps. Et donc, au-delà de la bienveillance, j'ai été aussi après bienveillant auprès de mon neurologue, de mes neurologues, de tout le corps médical, parce que c'est un partage et de s'accompagner sur l'avenir avec sa maladie qui moi, je la vis très bien.
On comprend bien l'importance de cette relation de confiance. Aurélie Lauchet, malgré tout, on confie sa vie à des gens, et on entend d'ailleurs souvent les patients quand ils parlent. Alors, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. Quand ça se passe mal, les adjectifs sont épouvantables. Par contre, quand on a une belle rencontre, alors là, les adjectifs, ils sont à la hauteur. Et ces adjectifs, on les retrouve aussi quand on parle des infirmières. Il y a souvent, on va dire pratiquement tout le temps, le terme de formidable. Mmh. Mais parce que derrière, il y a des gestes, des attentions, il y a le sourire, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi cette compétence. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression qu'il y a un retour de sentiment par rapport aux infirmières? À la limite, on parle plus de leur bienveillance que de leur compétence.
Oui, parce que en termes d'échange avec la patiente, c'est communication verbale et non verbale. C'est-à-dire que au-delà du fait qu'on doit lui expliquer ce qui va se passer pour elle dans l'avenir en termes de soins, il y a toute cette présence auprès de la patiente. Il faut l'écouter, on est là pour entendre ce qu'elle a à nous expliquer. Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle se sent pas bien? En fait, c'est toute une présence avec elle lors de l'entretien et lors de la prise en charge de façon globale. C'est-à-dire que je me vois pas ne pas écouter ce qu'elle a à me dire, ses ressentis. Si elle a besoin de quelque chose, je peux pas la laisser partir sans ayant tout fait pour elle, en fait.
Alors, vous exprimez au féminin, bien sûr, parce que vous êtes en gynécologie. Oui. Justement, sur ce type de spécialité, on va dans l'intime, encore plus de bienveillance.
Ah bah, évidemment. Évidemment, c'est essentiel. Sinon, finalement, la patiente n'est pas actrice de sa prise en charge non plus. C'est hyper important de tout prendre en compte la concernant. Donc, même si elle vient toute seule en consultation, il faut quand même essayer de lui poser la question si elle est accompagnée, si elle est mariée, si elle a un conjoint, ou si sa famille peut-être est au courant aussi de sa pathologie, de façon à être sûre qu'elle soit pas seule pour vivre tous ces événements dans sa vie.
On rencontre quelqu'un, on rencontre aussi une histoire.
Exactement.
Franck Rolland, cette qualité de relation médecin-patient, d'après vous, c'est quelque chose d'inné? Quand on a envie, on parle souvent de vocation en médecine, on arrive avec sa bienveillance, ou certains, je ne vous demande pas de dénoncer, mais est-ce que vous avez vu des gens qui avaient envie d'être médecin, mais finalement qui ne faisaient part d'aucune empathie, d'aucune tendresse même envers l'humain?
Alors, des gens comme ça, il y en a, c'est pas acceptable. Bien entendu, mais il faudrait pas non plus que ces gens-là deviennent finalement l'espèce de parangon de la médecine et qu'ils dissimulent tous les efforts des gens qui justement s'investissent dans ces questions-là.
Mais c'est pour ça que vous êtes là. Hein.
Je pense que la bienveillance a quelque chose d'assez paradoxal, au sens où en médecine, ou du moins en soins, dans toutes les professions de santé, quand on s'engage dans ces professions, on imagine que finalement la bienveillance est quelque chose d'assez inné, peut-être qu'il suffit de sourire, etc. Et en fait, comme on vient de le dire.
Il y a un apprentissage.
Non seulement c'est apprentissage, mais en plus c'est extrêmement consommateur d'énergie d'être bienveillant en permanence avec tout le monde, sans préjugés, etc. Ça s'apprend, d'une part, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la gestion de ça. Est-ce qu'on donne suffisamment aux soignants les moyens d'être bienveillants en toutes circonstances? Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est une vraie question.
Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, que vous avez travaillé, vous êtes déjà très avancé dans vos études de médecine? Est-ce que c'est quelque chose où vous avez senti une progression? Vous avez des compétences, on l'a dit tout à l'heure, scientifiques, techniques, qui vont de plus en plus loin. Est-ce que votre bienveillance grandit aussi avec votre parcours d'étudiant?
Alors tout d'abord, je voudrais surtout pas opposer les compétences scientifiques à la bienveillance. Je pense que c'est s'engager dans un débat qui n'a pas de sens et qu'au contraire, elles gagnent à travailler l'une avec l'autre. Dans les études de médecine, en France en tout cas, il y a un arrêté qui définit un certain nombre de compétences à acquérir et la compétence relationnelle, la compétence de réflexivité, de retour sur sa pratique, elle est avancée. Elle n'est pas suffisamment enseignée aujourd'hui en médecine. Moi, j'ai été chercher cette compétence-là au travers de cursus que j'ai réalisé à côté, un cursus d'éthique, un cursus de psychologie, pour essayer de m'enrichir de ces choses-là. Mais les étudiants en médecine n'ont pas le temps de faire tout ça. Donc voilà, il y a une vraie réflexion sur la formation à mener. Et je pense en tout cas qu'on est dans une époque qui conscientise enfin c'est l'importance de la relation et de la bienveillance en médecine.
Professeur Jean-Noël Fabiani, justement, on va pas parler d'obligation, parce que là on n'est pas vraiment dans la bienveillance, même s'il y a des choses obligatoires malgré tout qui sont incontournables. Apprendre la bienveillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de 16h à 18h, 2 heures d'empathie? Comment ça se passe?
C'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Alors, il faut bien, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Autant il y a des gens qui, naturellement, sont empathiques et ont ce relationnel. D'autres, il y a des étudiants en médecine qui choisissent la médecine comme ils auraient choisi une école de commerce. Et donc, ils s'aperçoivent au bout de 3-4 ans que quand ils approchent enfin des patients, qu'ils ne sont pas faits du tout pour ça. Et qu'ils sont plutôt gênés, voire certains malheureux. Et un certain nombre de suicides parmi des internes, on en a relevé ces dernières années, parce qu'ils ne sont pas bien. Ils ont fait une fausse route. On ne les a pas correctement orientés. Et c'est bien un début de la réforme qui va se mettre en place des études médicales, où on va supprimer le numerus clausus, mais aussi on va essayer d'intégrer un certain nombre de sciences humaines et un contact plus rapide avec le patient pour que d'emblée le jeune comprenne s'il est fait pour ce qui est son métier, le corps de son métier, c'est soigner et aller vers l'autre. Certains ont été sélectionnés par des QCM, questionnaires à choix multiples, sur des épreuves de mathématiques, de physique, de chimie, et donc qui n'ont rien à voir, bien entendu, avec les qualités humaines. Et il faudra bien, et je sais bien qu'en France, immédiatement les gens se hérissent, il faudra bien passer par des entretiens, par une relation directe entre le professeur ou les professeurs et l'étudiant pour que ceux-ci puissent juger véritablement des qualités humaines de cet étudiant.
Mais en même temps, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient recalés, qui en rêveraient de cet entretien.
Absolument.
Pour pouvoir se faire leur
Absolument.
Place.
On a sélectionné, hélas.
Des gens qui ont envie au cœur d'être médecin, mais qui auront le blocage forcément des QCM.
J'en ai connu beaucoup, hélas, qui ont été sélectionnés parce qu'ils n'étaient pas bons en maths, mais je peux vous assurer qu'ils auraient fait des médecins absolument extraordinaires parce qu'ils avaient le don d'aller vers les gens.
Vous avez appris sur le tas, vous?
Oui, bien sûr.
Cette humanité
Oui, je crois que j'avais le sens de ça.
Vous aviez des prédispositions.
Oui, ouais. Mais ça, c'est, j'y peux rien, c'est comme ça. D'autres ne l'ont pas, mais ça peut s'apprendre. Et même quand on a, entre guillemets, quelques qualités au départ, eh bien, ça s'apprend quand même. Il y a des recettes que l'on... Alors, on l'apprend parce que quand on est un peu observateur et qu'on a des bons maîtres, les bons maîtres, ils vous apprennent comment il faut faire. Mais ça n'est que du compagnonnage.
Et puis Aurélie Locher, vous le voyez aussi certainement avec les internes. Certains arrivent un peu, on va dire, mal dégrossis. Et puis au fil des semaines, des mois, des années.
Exactement. Tout,
ça progresse de façon incroyable. Et puis même des remarques des patients peuvent aussi les orienter sur des bons chemins.
Ben, il y a que comme ça qu'on apprend. De toute façon, c'est quand on est sur le terrain. Même nous, en tant qu'infirmières, au départ, on n'a pas forcément eu toutes les formations nécessaires pour être d'emblée dans la relation d'aide la plus optimale possible. Mais après, avec l'expérience, là, ça fait 12 ans que je suis infirmière. J'ai eu des formations qui m'ont permis d'apprendre. On a régulièrement la possibilité d'être formée. Et puis sur le terrain, de toute façon, en fait, c'est les patientes finalement qui nous apprennent aussi à devenir comme on est aujourd'hui. Quand les patientes nous remercient alors qu'au départ elles sont rentrées dans le bureau en étant tristes, vraiment très très mal de l'annonce, ça m'est encore arrivé il y a 2 semaines, une patiente qui est sortie de mon bureau qui m'a dit merci parce que grâce à vous ça va.
Malgré tout, cette bienveillance, elle peut aussi se perdre quand on est face à des situations de souffrance au travail. On sait bien que ça dépend des situations, des lieux de soins, des structures de soins. Malgré tout, certains arrivent bienveillants et ressortent brisés. et moins bienveillant.
Oui, c'est possible, parce qu'il y a de la pression, parce qu'il faut faire toujours plus. C'est vrai que c'est le cœur du métier d'avoir des patients autour de soi, de s'en occuper, de prendre le temps. Mais après, plus on est compressé pour avoir de plus en plus, moins c'est vrai qu'on aurait tendance à y arriver. Mais après, il faut réussir aussi parfois à prendre sur soi et à malgré tout. Enfin, moi, c'est ce que je me dis personnellement. C'est même si j'ai beaucoup de patientes qui m'attendent, j'essaye à chaque fois d'être vraiment au maximum et de faire en sorte que lorsque on a terminé ensemble, elles ressortent en étant à peu près détendues et en ayant un petit peu le sourire si c'est possible.
Laurent, tu es le regard du patient. Est-ce que vous gardez en mémoire des moments particuliers qui peuvent d'ailleurs aussi bien illustrer la grande bienveillance que des ratés complets, des passages très pénibles?
Pour moi, il y a la communication, c'est-à-dire, je disais le sourire à l'accueil, il y a la fin de l'entretien, enfin je veux dire l'entretien avec le médecin ou le neurologue dans mon cas, qui vous dit je reste à votre disposition. Rien que cette phrase, ça vous met dans un état où, comme je disais tout à l'heure, la protection, la bienveillance du neurologue. Et d'autres situations où, lorsque moi ça a pris 4 ans pour trouver que j'avais la maladie de Parkinson, et au départ c'était le burn-out, mais le médecin ne communiquait pas. J'étais allé voir d'autres neurologues, d'autres spécialistes, toutes sortes de médecines, hein, paramédicales et autres. Hein. Je cherchais.
Et parce que le début de votre maladie, les signes n'étaient pas forcément évidents?
Ça a été progressif. La main qui se crispait, puis fin 2011, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus taper au clavier. Et pourtant, je joue au football à haut niveau. Et c'est pour ça qu'on me disait, j'ai appris, c'est même pas qu'on m'a dit, en allant voir mon médecin généraliste, en demandant le dossier, que j'ai vu qu'on m'a dit, c'est le stress. Alors, j'aurais pu me communiquer avant, parce que là vous me demandiez un exemple de bienveillance. La bienveillance, ça aurait été de communiquer en toute sincérité pour peut-être observer d'autres pistes. Je veux dire que ça passe par l'honnêteté. Alors, comme vous disiez, je blâme pas du tout les médecins, les neurologues ou toute autre profession médicale. La difficulté avec le nombre de patients qu'ils ont, je pense que c'est ça, au-delà du sourire et de la communication, c'est très important d'être transparent. Et c'est pour ça que l'accès au dossier médical est essentiel, parce que c'est un long chemin qu'on mène aussi avec le corps médical sur la découverte de sa maladie. Et comme je vous disais, enfin la maladie, je voulais juste dire un mot, la bienveillance, c'est contagieux. Si le médecin est bienveillant, je serai bienveillant avec les autres personnes autour de moi, puisque je leur dirai, n'ayez pas peur, vous avez peut-être une maladie qu'on va vous découvrir, mais vous pourrez aller voir les médecins en toute confiance, on va vous aider. Il y a tout un ensemble de techniques et de psychologie qui ont été mis en place pour vous assister.
Alors, on a un témoignage, une auditrice qui s'appelle Charlène, qui est à Lubumbashi en République démocratique du Congo, qui a tenu à nous faire part de ce témoignage. On n'a pas pu la joindre au téléphone, donc je vais lire son message Facebook. J'avais un traitement de 8 mois quand j'étais adolescente, j'avais 16 ans. J'étais stressée d'être malade, parfois discriminée par l'entourage. Elle ne nous dit pas exactement de quoi elle souffre. Le médecin qui faisait mon suivi m'a beaucoup soutenue. Moralement, attention, sourire, écoute, ça a contribué à ma guérison et même au respect de mon traitement car je ne voulais pas le décevoir. C'était un vrai médecin, elle a défini l'observance, la confiance, ça va ensemble, professeur Fabiani.
Oui, bien entendu, ça va ensemble. Et surtout un point que je trouve important, vous disiez tout à l'heure que finalement, il y a quand même un enseignement qui est fait par compagnonnage, c'est-à-dire le maître apprend à l'élève. Moi, je me souviens d'un de mes patrons qui m'a dit un jour une phrase qui, pour moi, a été déterminante. Il m'a dit « Il faut que chacun de vos malades ait l'impression que pour vous, il est unique. » Ça n'a l'air de rien, mais à partir du moment où vous mettez dans cette idée-là, il faut que chacun de nos malades, eh bien, son cas, il ait l'impression que, pour le médecin, alors qu'on en a 50 autres, il faut qu'il ait l'impression qu'il est unique pour vous.
Et là, les patients disent « mon médecin ».
Voilà.
Ils se l'approprient.
Alors ça, c'est quand vous êtes arrivé à cela, eh bien entendu, quelque part, vous avez fait 50%, sinon plus, du chemin.
On a parlé du contexte, justement, cette forme de pression. Je vous vois réagir, Franck Roland, avant de poser ma question. Je vais vous laisser la parole, donc Franck Roland.
Oui, juste sur le compagnonnage, je pense qu'il y a aussi un intérêt de l'anti-modèle. C'est-à-dire, moi je me souviens en deuxième année de médecine, premier contact avec les patients, et le patron de l'époque m'avait dit « va donc faire l'observation du patient de la chambre X ». Je vais dans la chambre avec un collègue qui était en deuxième année comme moi et on commence à lui poser des questions et je sens que le patient est pas du tout en phase. Peut-être il a appris mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a pas envie d'être examiné. Moi, j'étais plutôt partant de il a pas envie, on sort et puis on va dire au patron que le patient avait pas envie d'être examiné. Mon collègue voulait absolument l'examiner. On s'est séparés. Et en revoyant le patron est venu me voir en me disant, écoute, il va falloir que tu apprennes que c'est toi le médecin et que c'est toi qui décides.
C'est donc, toi le boss.
Voilà, c'est toi qui décides quand est-ce qu'on les examine. Moi, pour moi, ça a été aussi une phrase déterminante, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, jamais je ne deviendrai comme ça. Et je pense qu'il y a aussi des modèles aussi comme ça, où, voilà, avec une attitude peut-être réflexive, et, etc., on peut construire sa bienveillance aussi.
On a envie d'être bien soigné, mais on a chacun des dizaines d'exemples de consultations catastrophes. Un patron qui arrive, un chef de clinique qui arrive et qui dit devant un enfant, par exemple, voilà le cas idéal, qui dit ça devant sa mère. C'est quelque chose d'extraordinaire quand l'enfant est hospitalisé, mais ça arrive. Il ne faut pas nier qu'il y a des choses assez pathétiques qui arrivent et dont tout le monde est victime.
Mais dans ma génération, quand j'étais jeune médecin, j'ai vécu la consultation public devant l'amphithéâtre où le malade entrait dénudé pour consulter le chef de service et tous les médecins, étudiants en blouse blanche étaient dans l'amphithéâtre et assistaient à la consultation. Vous imaginez l'état de ce pauvre homme.
Mais ça, mais ça arrive encore en service pédiatrie où il y a une ribambelle, un médecin-chef avec cinq internes qui demandent à un adolescent de se déshabiller. Donc ça arrive encore. Donc là, c'est aux parents aussi de faire leur barrière en disant « et bien plus tard ».
Alors, vous me rappelez une histoire quand j'étais en service de pédiatrie où la cohorte du patron et de tous les internes arrive au lit d'un petit garçon et il se met à pleurer. Et celui qui était à côté, dans le lit d'à côté, le regarde et dit « T'en fais pas, quand ils sont nombreux, ils font jamais mal
». Bon, on espère que c'est vrai. En tout cas, on parlait tout à l'heure des pressions, de tout ça, sur aussi en termes d'horaire, en termes d'équipe. Mais il y a un grand changement aussi qui s'est opéré. Je pense que je voudrais vous faire réagir chacun d'entre vous sur cette question. C'est l'attitude du patient. Le patient est beaucoup moins passif. Il attend aussi de son médecin, il attend de sa médecine. Il est aussi certainement plus au courant, plus éduqué. Même des fois, il dépasse même ses pouvoirs de patient en se croyant un peu savant au-delà du médecin. Mais en tout cas, il en demande et là aussi, il estime. Et on lui a reconnu aussi des droits, professeur Fabiani. Le droit d'être informé, alors, en tout cas.
Bien sûr, le droit d'être informé, c'est la moindre des choses. Mmh. Seulement, souvent, le malade, il faut bien le reconnaître, cherche à s'informer avant même votre consultation, tout seul. Il va sur Internet, il voit des choses absolument incroyables auxquelles il ne comprend, hélas pour lui, mais c'est normal, il ne comprend rien. Et il arrive, il connaît presque mieux l'opération que je vais lui faire que moi, celle que je vais lui décrire. Donc, et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut commencer par démonter tout ce qu'il n'a pas compris, et ensuite remettre sur le papier la réalité des choses. Et c'est vrai que, alors, les gens sont beaucoup plus instruits aujourd'hui en médecine qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans, hein, c'est une évidence. Mais parfois, les réseaux sociaux, mais parfois Internet tout simplement, ou des livres, leur offrent un message qui n'est pas toujours parfaitement assimilé. Et c'est là où le médecin doit faire quand même un travail, surtout en ne disant pas « vous n'avez rien compris ». Mmh. Mais non, écoutez, c'est un peu plus compliqué, on va reprendre les choses à zéro. Voilà.
Oui, on va pas faire d'un côté le médecin avec cette image et le patient le gentil, parce qu'il y a certains patients aussi, c'est pas forcément facile d'établir ce lien. Il y a des patients qui n'arrivent pas dans de très bonnes dispositions pour différentes raisons, des raisons qui leur sont propres et qui peuvent être tout à fait légitimes. Franck Roland, il y a aussi ce cadre d'établir un lien avec quelqu'un qui n'en a pas envie.
Oui, tout à fait. Et même pour rebondir sur les propos qui ont été tenus, des fois, c'est pas simplement le fait d'arriver en ayant une connaissance de la médecine, mais c'est le patient qui vient, et ça se voit beaucoup en médecine générale, avec finalement un sens qu'il a trouvé à ce pourquoi il
souffre. Son idée est faite.
Voilà. Et pour travailler actuellement aux urgences, c'est l'un des paradoxes de la bienveillance, c'est-à-dire que vous avez un patient qui arrive avec un symptôme, une douleur, et dans le cadre des urgences, vous éliminez finalement le grave. D'accord, c'est un peu l'objectif des urgences. Donc vous faites un examen clinique, éventuellement des examens complémentaires s'il y en a besoin, et entre guillemets, vous ne trouvez rien. Mais trouver rien, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien pour ce patient-là qui souffre. Venir lui dire en lui disant, les examens montrent que vous n'avez rien, c'est complètement destructeur. Lui dire que on n'a rien trouvé de grave qui nécessite une prise en charge en urgence, mais que on va essayer de le soulager avec des antalgiques en attendant plus tard qu'un diagnostic soit posé en dehors du contexte d'urgence, ça c'est quelque chose qui paraît paradoxal. Est-ce que le patient à qui on dit ça a l'impression qu'on est bienveillant avec lui, sachant qu'on répond pas à sa question, mais pourquoi est-ce que j'ai mal, docteur ? Donc là, il y a une vraie question aussi à se poser. C'est-à-dire que dans le contexte d'urgence, la bienveillance voudrait que j'ai un temps infini et la possibilité de rassurer mon patient et éventuellement de trouver ce dont il souffre pour le guérir. Simplement, c'est pas la vocation des urgences. Alors comment fait-on ?
Le droit du doute aussi, le droit aussi d'avoir une certaine errance de diagnostic. Vous nous avez raconté tout à l'heure, c'est ce qui vous est arrivé, Laurent Tuile. Ça a mis du temps avant d'avoir le bon diagnostic. Malgré tout, après, une fois qu'on vous a donné votre réponse, la confiance, elle est revenue.
Ah, tout à fait, surtout qu'on avait mis un nom sur ce que j'avais. Donc, tout de suite, je suis parti sur le principe que si c'est mon corps qui l'a créé, je peux essayer de le contrôler. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, dans l'accompagnement du médecin, on est deux. Donc, avec la, pas de choses mystiques, mais avec la force mentale, je pense qu'on peut aller plus loin quand on a la confiance. Vous avez employé le mot. J'y crois fortement, hein. Et puis, la deuxième chose, c'est que surtout, mon neurologue du moment m'a dit, c'est votre nouvel ami, si vous arrivez à l'accepter, vous allez vous éclater. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, par mes origines, j'ai trouvé cette phrase extraordinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une maladie qu'on doit en souffrir. Bah, peut-être essayer de la comprendre, d'autres vont essayer de la combattre, pourquoi pas, mais en tout cas, ne pas la nier, l'accepter, qui est une phase aussi importante. Et là, la bienveillance, pour revenir sur cette thématique, mes neurologues m'ont accompagné sur cette thématique où, justement, j'ai vécu avec cette maladie, puisqu'aujourd'hui, je suis représentant des travailleurs handicapés dans ma société. Et puis, je peux démontrer qu'on vit très, très bien. Anecdotiquement, je suis dans la relation client, puisqu'on parle aussi de bienveillance. Moi, avec mes clients, je dois l'être. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un partage. On peut vivre pleinement avec sa maladie. Voilà, si on peut la maîtriser, en tout cas, accompagnée par le médecin et par votre esprit.
Et paradoxalement, vous avez vécu quelque chose d'assez étonnant. Souvent, quand on annonce une maladie chronique, pour beaucoup de patients, c'est une annonce couperet. Pour vous, finalement, c'était un soulagement.
Oui, ça a été un soulagement parce qu'au départ, je sentais que j'arrivais pas à bouger mes muscles, enfin mes membres. Je pensais que c'était une tumeur que j'avais au cerveau. Alors, je me suis dit, on va ouvrir et puis on va soigner. Nous avons la chance d'être au 21e siècle. J'aurais été Moyen-Âge, je sais pas où je serais. Hein,
vous ne seriez en tout cas pas un micro, ça
voilà,
c'est certain.
Voilà, c'est sûr, et j'aurais pas pu tendre même la main avec la maladie de Parkinson pour avoir des pièces au Moyen-Âge. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on était au 20e siècle, donc je faisais confiance à la médecine, déjà. Et après, je pense qu'il y avait un travail sur moi à faire. J'ai eu aussi l'accompagnement de la famille, hein. Je suis allé chercher les forces autour de moi. Et comme je vous disais tout à l'heure, la bienveillance se transmet. Aujourd'hui, c'est un partage que j'essaie de dire aux autres, d'enseigner aux autres. Ne lâchez pas, quelle que soit la maladie. Alors, il y a des degrés, hein. Ça peut être plus ou moins difficile à vivre pour certaines personnes. Puis, ils ont leur passé, leur environnement. Tout le monde n'a pas chance d'avoir un environnement familial. Mais en tout cas, le message, c'est que la bienveillance existe dans le corps médical, hein, même si aujourd'hui, on le sent pas. Puis, c'est aussi notre rôle de patient d'être un peu bienveillant aussi avec le médecin, puis de comprendre que lui aussi, il reçoit beaucoup de personnes. C'est aussi notre rôle, peut-être, de tout dire, hein, pas de transparence dans un sens, mais aussi la transparence dans l'autre sens.
On va aborder justement tout à l'heure l'échange émotionnel qui peut être particulièrement intense, qui peut être difficile à vivre. Mais d'abord, j'aurais aimé qu'on évoque justement cette bienveillance. Est-ce qu'elle est particulière, petit tour de table entre les soignants, est-ce qu'elle est particulière à certains moments du soin? Bien sûr, on parle du diagnostic, il y a l'installation de traitements contraignants, l'annonce d'une chirurgie. Est-ce qu'il y a des attitudes qui correspondent à certains moment du soin, voire un soin de l'intime? Tout à l'heure, on parlait de la gynécologie, lorsqu'il faut demander à une patiente ou à un patient d'exhiber certaines parties de son corps quand il n'est pas forcément familier avec ça. On va peut-être commencer avec vous, Franck Roland. Est-ce que vous estimez que on a des attitudes qui correspondent à certains soins ou c'est quelque chose d'assez global?
Je pense que effectivement, il y a la question des représentations. C'est-à-dire, je suis ravi qu'on ait un patient qui s'exprime sur cette thématique parce que vous nous parlez de votre maladie et vous nous donnez votre représentation. Je vais peut-être choquer mes futurs confrères, mais vous nous apprenez des choses et ça c'est quand même assez essentiel. Et effectivement, comme vous le disiez dans les cas que vous décrivez, qu'est-ce que ça signifie?
Sur l'exemple du diagnostic, c'est l'annonce. On a toujours ce moment, on dirait que c'est quasiment le terme biblique, l'annonce de la maladie. Ça revient dans toutes les émissions, le temps consenti à l'annonce, la façon de le dire, et les patients, les gens qui nous appellent, qui disent « on m'a dit ça comme ça, voilà ». Est-ce que ça s'apprend? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien?
Alors ça s'apprend. Ça s'apprend énormément. Il y a beaucoup d'enseignements de psychologie, de communication, etc. qui sont quasi inexistants en médecine pour l'instant. Ça s'apprend sur le tas. Encore aujourd'hui, c'est complètement aberrant. Mais je pense que ça change. Et se poser la question, ça veut dire quoi ce que je vais dire pour la personne en face? Et comment est-ce qu'elle va le prendre? Et d'ailleurs, on parle plus de diagnostic.
C'est bien ce qu'on a entendu avec monsieur. Pour lui, l'annonce était une délivrance. Pour d'autres, c'est une catastrophe.
Et c'est là la question, c'est qu'on parle de consultation d'annonce. Mais en fait, c'est un processus. C'est-à-dire que le médecin intervient une fois. Et j'allais dire, il fait qu'une toute petite partie du travail, parce que derrière, il y a tout le processus de construction d'un sens autour de la maladie, d'acceptation, comme vous le disiez. Et je pense que là, notre collègue pourra nous en parler beaucoup mieux que moi, en tout cas.
Infirmière, oui, bien sûr, il y a tout ce qui va s'enclencher derrière.
Exactement, c'est un processus qui est assez, assez long, parce que même si effectivement il y a l'annonce médicale, et d'ailleurs, la plupart des médecins avec lesquels on travaille dans le service, prennent toujours ce temps de demander à la patiente si elle a des questions, si elle a compris, ou en l'occurrence de lui expliquer qu'il n'y a pas de secret par rapport à sa pathologie, qu'en l'occurrence on peut tout lui expliquer correctement. Mais néanmoins, derrière, quand nous on voit les patientes en entretien, c'est plus du tout, entre guillemets, la même attitude. C'est-à-dire qu'il y a eu l'annonce médicale, mais après, il y a le flou. Il faut que nous, on sache s'adapter à ce que la dame, elle a compris, pas compris, comment elle se sent, ce qu'elle a besoin ou pas d'entendre. Et puis même en termes d'intimité, quand on est pendant la consultation, c'est très important de voir si elle est apte à être consultée ou pas, en fonction de pas mal de paramètres au final, hein, puisqu'on a quand même parfois des patientes en fonction de leurs origines, de plein de facteurs, qui n'ont pas forcément envie d'avoir des internes, des externes dans le box avec nous. Donc il y a tout un processus qu'il faut prendre en compte, si elle est apte à entendre, à faire les choses ou pas.
Et les infirmières, elles n'ont pas un petit peu l'impression parfois, Aurélie Locher, que les médecins se défaussent sur elles? En gros, je suis le technicien, je suis la science, je suis le monsieur ou la dame, et vous, maintenant, vous gérez l'écoute et vous gérez un petit peu le service après-vente. Je caricature certainement, mais je vous pose quand même cette question.
Bah, oui et non, mais c'est-à-dire que avant de voir la patiente en entretien, soit on est dans le box avec le médecin et en fait, on fait la continuité. J'ai plus l'impression de faire cette continuité, même si je suis pas présente à la consultation avec le chirurgien. J'ai eu des transmissions, le médecin m'explique, et pour moi, en fait, c'est une complémentarité. Je le vois plutôt comme ça. Après, c'est vrai qu'on a les émotions en plus à gérer, que la patiente n'a pas forcément montré devant son médecin. Il est vrai que c'est un entretien qui est différent, mais j'ai plus l'impression d'être complémentaire et du coup, de faire le lien avec d'autres professionnels qui seraient la psychologue, l'assistante sociale, voire même de nouveau le chirurgien, s'il faut, la patiente, elle peut reprendre rendez-vous parce qu'elle a d'autres questions, elle n'a pas compris, elle a besoin d'être sûre de ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est plutôt un lien et complémentaire, finalement.
Et il y a une image dont vous êtes le parfait démenti, professeur Fabiani. C'est ce qui voudrait associer, en fait, une hyper-technicité à une humanité minimum. Certaines spécialités, malgré tout, sont un petit peu associées à ça. On va dire le chirurgien, on le ponte, c'est pas celui qui va vous... On demande pas au médecin de nous étreindre, mais quand même, c'est pas celui qui va nous remporter avec énormément de chaleur cette annonce. Malgré tout, l'enjeu, par exemple, de l'annonce d'une chirurgie cardiaque, c'est énorme, parce que toute chirurgie cardiaque revêt plus ou moins un risque. Alors, comment on fait pour être ce super technicien et, en même temps, cette personne qui va être absolument rassurant?
Séparons les problèmes. Il y a le technicien, il est en salle d'opération, là le malade dort, il fait son métier. Quand il est en consultation, eh bien, il a quelqu'un en face de lui. Et tout son problème, et c'est ça la grande difficulté, c'est quand la personne entre dans le cabinet de consultation, il faut qu'il sache qui il a en face de lui. Donc il faut que par quelques questions, il n'a pas en effet des heures, mais par que quelques questions, il y a celui qui se sent très fort, mais qui n'est pas si fort que ça. Il y a celui qui ne comprend pas, mais qui voudrait bien comprendre. Il y a celui qui, au contraire, arrive en disant « Moi, je veux rien savoir, et vous faites ce qu'il faut faire, moi, je veux même pas savoir ce que vous allez me faire. » Bon, il faut qu'ils comprennent. Et ça, c'est très, très difficile. Et il y a des gens qui, qu'on le veuille ou non, alors là, ça s'apprend pas à l'école. Hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour ça. Il y a des gens qui perçoivent le malaise, qui perçoivent la personne qui sont en face d'eux, qui ont une empathie naturelle. Ça se passe même au niveau d'ondes qui ne sont pas faciles à déterminer et qui perçoivent qui en fait. Alors là, on peut se mettre au diapason. Parce qu'il y a des malades, un jour, je me souviens très bien, je voulais expliquer sur un dessin du cœur ce que j'allais faire. Et il voit le dessin du cœur, il me dit, oh, surtout pas. Alors j'ai pris un cœur de carte à jouer. Vous savez, le cœur. Et je lui ai montré. Ah, bah oui, c'est mieux comme ça, docteur.
Moi, j'ai envie que vous m'opériez du cœur, professeur Fabiani. On va poursuivre dans notre échange tout de suite et on va partir pour le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Bienveillance écoute. Pour parler de cette relation patient-médecin, on retrouve le professeur Roger Sombier. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue et pathologue à l'hôpital Yalgado-Ouédraogo de Ouagadougou. Alors, défi du soin bienveillant dans des structures hospitalières, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, professeur Sombier. Comment, à titre personnel, est-ce que vous définissez la bienveillance?
Personnellement, la bienveillance, pour moi, ça a été dit sur différents aspects durant l'émission, c'est à la fois simple et compliqué. Simple pourquoi? Parce qu'il faut simplement être véritablement concerné par le patient qu'on soigne, avoir la même attention, la même détermination vis-à-vis du patient, comme si c'était un membre de sa propre famille, l'écouter, le soutenir, l'accompagner, s'adapter à chaque patient au niveau de l'information. Donc, je pense que clairement, il faut donc prendre soin du mal et du patient lui-même, donc, qui vient pour consulter.
Et être capable en même temps d'être bienveillant, et dans votre cas, professeur Sombier, d'expliquer, y compris à des personnes qui viennent se faire soigner et qui n'ont pas toute la compréhension, justement, de ce que vous allez leur dire.
Exactement, oui. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut donc s'adapter au niveau du patient. Donc, il ne faut pas se dire que parce que le patient n'a pas fait l'école, le patient n'est pas un cadre supérieur qui ne peut pas comprendre certains aspects et tout. Non, il faut utiliser des mots simples au besoin, utiliser un traducteur, faire des schémas, donc être disponible pour le patient, lui dire que ben, à tout moment s'il a besoin donc de nous, qu'il n'hésite pas, donc être disponible et joignable donc avec le téléphone portable, répondre aux messages des patients. Donc je pense que c'est vraiment prendre le temps d'écouter le patient, l'observer, dire des mots gentils. Je crois que des attitudes simples, accueillir le patient à la porte du bureau, le raccompagner. Donc clairement, ça a été dit au cours de l'émission, c'est contagieux. Ça prend du temps, mais quand les patients sortent comme ça après la consultation, vous sentez que ceux qui rentrent après et tout, ils vous disent, ben tiens, voilà, le patient, quand il est sorti, je l'ai trouvé soulagé, il était, voilà, il était heureux, et donc il transmet ça aux patients qui sont en attente avant de passer au voir.
Avec justement dans le contexte ouest-africain, le peu de nombre de spécialistes, avec aussi certaines distances, on va dire une distance sociale entre le patient et vous, le professeur de médecine, qui est vu un peu comme un personnage de la haute sphère de la société burkinabé. Justement, vous réussissez à reprendre ce lien avec ce patient, ce monsieur et madame tout le monde ?
Ah oui, clairement, ça c'est même un aspect qui est fondamental dans ma pratique, c'est vraiment donc d'expliquer aux patients que je ne suis pas un surhomme, je suis un humain comme lui, donc c'est le titre de docteur donc qui prédomine, si vous voulez, la fonction de professeur, c'est une fonction enseignante de la spécialité, donc j'explique à mes patients qu'on peut être un médecin généraliste et avoir une compétence du tout, qui n'a rien à envier avec un professeur, à condition qu'on fasse une formation médicale continue, qu'on prenne à cœur l'exercice de sa profession. Donc je crois qu'à ce niveau, vraiment, c'est d'être humain, d'être disponible, et puis de briser la glace vis-à-vis des patients. Donc juste une anecdote, c'est les patients, très souvent ils me demandent, ils sont perdus, mais vous êtes docteur, vous êtes professeur, vous, finalement, parce que je leur dis, ça n'a pas d'importance, l'essentiel, c'est d'être utile pour les patients.
Et c'est quelque chose que vous transmettez, là, en tant qu'enseignant, à la future génération de soignants ?
Bien entendu, c'est vraiment mon combat, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je transmets aux plus jeunes, et je leur dis, la consultation, l'écoute du malade, c'est la partie la plus chronophage, la moins rémunératrice de notre consultation, mais c'est la partie la plus importante. Et je leur dis, sachez poser les bonnes questions, observez le malade, ça a été dit pendant l'émission, le regard du malade, c'est l'essentiel. Je dis à mes patients, les yeux peuvent tromper, mais pas le regard. Donc une fois que vous allez avoir ces aspects et tout, bien les appréhender, je crois que c'est là que vous allez pouvoir réussir, là où peut-être un confrère n'a pas réussi à poser les bonnes questions ou poser le bon diagnostic. C'est là que la différence va se faire.
Et en préparant cet entretien, vous nous avez dit quelque chose de très joli, je voulais reprendre votre formule, c'est avoir aussi la capacité, hein, je vous cite, d'entendre le silence des patients. Qu'est-ce que ça veut dire, ce silence des patients ?
Ben, c'est ce que je disais. Les patients, souvent, quand je consulte avec eux, je leur dis, ben, ils ont en fait une douleur, ils ont une souffrance qu'ils ont du mal à exprimer par les mots. En fait, j'avais dit M-O-T. Donc, en fait, je leur dis que le corps a sa propre intelligence. Et en fait, c'est ces mots M-O-T qu'ils ont du mal à exprimer, qui viennent exprimer en consultation par des mots M-A-U-X. Donc, clairement, effectivement, il faut prendre le temps d'écouter, d'observer le patient. Et en général, le patient lui-même, il va vous dire sa souffrance et son diagnostic. Et très souvent, les patients, ils me disent, mais docteur, vous nous posez des questions que les autres médecins ne nous posent pas.
Merci infiniment, professeur Roger Sombier. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue et pathologue à l'hôpital Yalgado Ouédraogo au Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Et on retrouve nos invités en plateau pour la dernière partie de cette émission consacrée à la bienveillance en médecine. Un point particulier sur lequel je souhaitais revenir, c'est celui de l'émotion. Savoir aussi écouter, y compris les silences, savoir interpréter ses regards. Et aussi, parce qu'on est humain, même quand on soigne depuis parfois des dizaines d'années, avoir aussi certaines émotions. Comment on fait? Est-ce qu'on les retient? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les exprime? Comment est-ce qu'on fait, professeur Jean-Noël Fabiani, lorsqu'on est terriblement ému face à un patient?
Alors, il faut quand même qu'il y ait une distance qui persiste entre le soignant et celui qui va être soigné. Pourquoi? C'est pas du tout parce que nous sommes des surhommes ou des super-femmes. Simplement parce qu'il faut que le patient se raccroche à quelque chose de solide. Et qu'il en face de lui quelqu'un, eh ben, certes, il sent qu'on a été ému parce que le malade le sent parfaitement. Mais, devant cette émotion, eh bien, on ne faiblit pas, on a une solution à proposer. Il faut qu'on apparaisse un peu, j'exagère en disant ça, mais un peu comme le roc auquel il va s'accrocher pour espérer son salut, qu'on ne peut pas, hélas, toujours lui donner. Mais en tout cas, il faut que dans son accompagnement, il ait dans le médecin qu'il soigne la certitude qu'il a véritablement un point d'amarrage.
Franck Roland, vous pensez que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience aussi, cette capacité, cette gestion des émotions?
Alors oui et non, parce que ce qu'on entend souvent dans les études de médecine, c'est qu'il faut se blinder, se prémunir et garder la bonne distance. Je pense qu'il faut peut-être plus parler de juste proximité, ce qui est complètement différent. À distance, on recule, proximité, peut-être qu'on s'approche un peu. Effectivement, il y a aussi des gens qui ont des attentes différentes, et c'est tout l'enjeu de la relation humaine. C'est-à-dire des gens qui effectivement vont pas du tout supporter que leur médecin se mette à pleurer, si je puis dire. Voilà.
Je pense que très peu de gens supporteraient que leur médecin se mette à pleurer. C'est quelque chose
qui est... Parce qu'on a l'image, mais par exemple, moi j'ai une situation d'une patiente qui m'a beaucoup touché, qui faisait des progrès considérables. C'était une pianiste, et c'est toujours une pianiste, qui avait une neuropathie, donc qui ne pouvait plus jouer de piano, et puis qui était prise en charge, et qui commençait à récupérer difficilement, etc. Et je l'ai vue plusieurs fois, et un jour, la première chose que je fais qu'elle fait quand je rentre dans la salle de consultation, c'est de me tendre, attendez docteur, avant toute chose, elle me tend son téléphone, elle lance un enregistrement, et c'était un morceau de piano.
Oui, mais là vous êtes en train de citer quelque chose de positif, bien sûr. Maintenant,
mais ça existe aussi.
Bah non, mais je suis d'accord. Pleurer à la naissance d'un enfant, c'est admis totalement par toute la communauté. Maintenant, dans des circonstances dramatiques, le médecin qui s'écroule et qui pleure, l'infirmière qui pleure, c'est quelque chose qui peut même être carrément terrible et pas du tout bienveillant, Aurélie Locher.
Bah, voire inquiétant.
Inquiétant.
Inquiétant, parce que comme vous disiez, professeur Fabiani, il faut quand même montrer qu'on est un minimum, on est solide, on tient le coup. Même si
puis vous êtes là pour aider.
On est là pour aider. Après, c'est vrai qu'en gynécologie, on a des femmes en face de nous qui, parfois, ont le même âge que moi. On peut potentiellement faire un transfert de situation, mais il faut quand même rester, forte et pas. Évidemment qu'on a un cœur et qu'on peut avoir des émotions, c'est normal. Mais, enfin, à mon sens, surtout pas faillir en fait, de façon à être convaincante.
Laurent Thuil, cette juste distance, c'est quelque chose d'important.
Oui, bien sûr. Comme disait le professeur Fabiani, il faut avoir quelqu'un ou personne à qui se rattacher, parce qu'il faut. Des fois, on peut avoir des hauts et des bas. Hein. C'est même quand je vous dis là, je suis très positif, je suis tout. J'essaie d'être de l'aide toujours, mais il y a des hauts et des bas. Donc, on a besoin de cette distance. Et puis, ça vous permet aussi de parler de choses, des fois, parfois difficiles, hein, parce qu'il y a des effets secondaires avec les traitements, des fois, des choses qu'on n'ose pas dire. On évoquait tout à l'heure, le professeur Sombier évoquait les mots MAUX et les mots MOTS. Il y a des choses qu'on n'ose pas avouer aussi aux médecins. Donc, cette distance le permet, ce qu'on ne ferait pas avec sa famille.
Alors, certains, quand ils n'ont pas la bonne solution, vont demander un deuxième, un troisième avis. Est-ce que, justement, c'est un signe concret, professeur Fabiani, que eh bien, cette bienveillance ou cette relation de confiance n'a pas marché, ou c'est finalement quelque chose d'assez naturel?
Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel. C'est-à-dire que, dans le monde où nous sommes actuellement, on sait qu'il y a différents possibilité pour soigner quelqu'un. Et je comprends parfaitement, et même parfois je demande à certains patients qui, je vois bien, n'acquiescent pas totalement à mon avis, aller voir un de mes confrères. Moi, évidemment, vu mon âge maintenant, je suis très souvent celui qui fait le deuxième ou troisième avis. D'ailleurs, il faut jouer le jeu et renvoyer toujours au premier praticien, mais c'est absolument naturel. Je reviens simplement sur un petit mot que vous avez dit tout à l'heure qui est intéressant, c'est se blinder, le mot qu'on dirait. Non, quand on est médecin, on ne se blinde pas. Ça fait partie du métier de médecin. On en prend, entre guillemets, j'exagère en disant ça, plein la gueule, mais ça fait partie du métier. Si jamais on veut pas avoir ces traumatismes, on fait pas ce métier-là. On fait un autre métier.
Quand on n'aime pas la maladie, on fait pas médecin, tout simplement. Certains établissements établissent des chartes, des recommandations en termes de bienveillance. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit tour de table, Franck Roland. Est-ce qu'il faut des règles? Est-ce que ça peut servir? Est-ce que ça peut protéger?
Je vais être un peu provocateur, mais on peut faire toutes les chartes qu'on veut si elles ne sont pas acceptées. Il y a par exemple dans tous les établissements de santé la charte du patient hospitalisé qui définit un certain nombre de droits et de règles qui parfois sont un petit peu, litigieuses.
Oui, voilà. Mais ça peut informer le patient aussi.
Bien évidemment. La question c'est, les chartes c'est une chose, mais il ne faudrait pas que la charte devienne un objet pour se dédouaner de la responsabilité, de dire on a fait une charte, c'est bon, on est bienveillant, maintenant on peut continuer comme d'habitude. Voilà, c'est un peu provocateur. Mais
ça peut être aussi une forme de rappel à l'ordre de certaines instances qui disent on a observé, on a constaté, il y a eu des remontées de certains dysfonctionnements, on établit cette charte comme un espèce de support sur lequel on peut aussi travailler.
Je crois malheureusement que tout le débat qu'on a actuellement, ceux qui sont concernés par la situation et qui ont envie d'améliorer leur relationnel ou qui sont déjà d'une grande bienveillance vont l'entendre. Et les autres, est-ce qu'ils vont vraiment l'entendre? C'est ça l'enjeu finalement de ce débat. Comment toucher ces gens-là?
Si vous avez quelque chose à dire, Aurélie Lochet, à une jeune infirmière qui arrive et que vous sentez un petit peu déstabilisée, peut-être même au niveau émotionnel, au niveau de la parole, comment parler aux patientes, qu'est-ce que vous lui dites?
De prendre le temps de s'adapter déjà à ce que la patiente elle a lui expliqué, d'avoir une grande écoute et surtout de prendre tous les conseils auprès de ses collègues et de se former aussi parce qu'on a quand même la possibilité d'avoir des formations. Donc c'est très important de prendre le temps. S'il y a une situation qu'elle ne sent pas, éventuellement de déléguer à une autre collègue, mais ce qui est important c'est de pouvoir communiquer avec ses confrères, même les chirurgiens, parce qu'au final, on peut tous apprendre l'un de l'autre et de prendre le temps.
Alors, on a parlé de bienveillance, on a parlé d'humanité, c'est le mot de la fin, il nous reste peu de temps. Remettre de l'humanité dans les études de médecine, est-ce que ça veut dire remettre des humanités, de la poésie, de la philosophie ou pas aller jusque-là?
De la poésie, je ne sais pas. Après tout, la poésie, pourquoi pas. Mais en tout cas, sûrement de la philosophie, de l'éthique, de la psychologie, voire de l'histoire de la médecine, pour que les gens savent d'où nous venons et quel a été le trajet de ces médecins du temps passé. Ça, c'est, à mon avis, c'est indispensable. Indispensable aussi de mettre rapidement les étudiants en face des malades.
Laurent Thuil, professeur Jean-Noël Fabiani, Franck Roland, Aurélie Lochet, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et demain, dans Priorité Santé, nous allons parler des troubles urinaires. Vos questions au 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.